sur les sentiers de l'orthodoxie. Une émission présentée par le père Pascal Scordino.
Alors nous recevons aujourd'hui Jean-François Colosimo, directeur aux éditions du CERF et président de l'Institut théologique orthodoxe Saint-Serge et également enseignant dans ce même institut. Bonjour Jean-François.
Bonjour.
Alors, aujourd'hui, nous venons vers vous. Qu'est-ce que pour vous l'école de Paris ?
Écoutez, vous voyez qu'au XXe siècle, en fait, toutes les confessions chrétiennes ont connu un extraordinaire renouveau théologique. C'est vrai du monde catholique, c'est vrai du monde protestant, c'est aussi vrai du monde orthodoxe. Si ce n'est que ce monde orthodoxe, il a été pris, en fait, dans les grandes migrations qui ont été consécutives, soit à des désastres politiques, soit à des difficultés économiques. Les désastres politiques, dans le cas de la Russie, c'est évidemment l'avènement de la révolution bolchevique et l'immense persécution qui s'en étant suivie de l'Église. Il y a donc eu des théologiens qui ont pu échapper à la tragédie ultime, n'est-ce pas, de la déportation, du camp, de la mort, et qui se sont retrouvés pour beaucoup à Paris, et qui ont fondé cet institut, l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge, et qui ont continué, en fait, la grande œuvre de redressement qui avait déjà commencé en Russie et en Empire orthodoxe au XIXe siècle, puisque la théologie orthodoxe, après la chute de Constantinople en 1453, elle s'était retrouvée pour tout le bassin méditerranéen sous l'emprise de l'Empire ottoman et des Turcs, et elle avait été en quelque sorte empêchée dans son expression. La vie orthodoxe, elle continuait, mais l'expression de l'orthodoxie, elle était véritablement difficile, empêché et prenant de plus en plus des formes, je dirais, occidentalisées qui n'étaient pas véritablement son langage naturel. C'était vrai aussi dans l'Empire russe, dans l'Empire des Tsars, où le patriarcat de Moscou avait été décapité et où on voulait faire régner une église, là encore, qui était modelée sur un modèle, qui était sur un modèle luthérien. Alors, ces théologiens, ils bénéficient du renouveau du XIXe siècle, parce qu'au XIXe siècle, c'est la compétition entre la science et la foi, n'est-ce pas ? Et donc, il faut que les théologiens aient un discours qui intègre les sciences humaines, les sciences sociales, les sciences historiques. Et ça va être le cas ici. Ces exilés vont comprendre qu'en fait, cet exil n'est pas une malédiction, que c'est une bénédiction, parce que cet exil va leur permettre de repenser l'orthodoxie hors de tout cadre politique, sociologique, hors de toute pesanteur, et de penser l'orthodoxie pour elle-même. Et ils vont entamer un grand travail de redécouverte. Ce travail de redécouverte, il va porter, comme ailleurs, comme dans les autres confessions chrétiennes, sur quoi ? Sur la liturgie, sur la Bible, sur les pères, sur la spiritualité. Et les différentes, je dirais, tendances, les différents courants qui vont animer cette révolution au sens propre, parce qu'il s'agit de revenir aux sources du christianisme, c'est une révolution au sens du retour, eh bien, ça va être réuni sous le label École de Paris, dont le vecteur principal est cet Institut Saint-Serge, mais qui va connaître aussi d'autres expressions dans d'autres communautés orthodoxes émigrées.
Et ce retour dont vous parlez, de révolution, est-ce qu'il constitue un retour à une case initiale, ou est-ce que c'est la révélation qui continue dans son cheminement, dans sa progression avec l'Esprit Saint ?
Alors, il y a deux choses qu'il faut bien comprendre. Dans l'Église orthodoxe, on considère que le dépôt de la tradition est entier. Nous ne connaissons pas mieux le Christ et nous ne connaissons pas mieux le mystère de l'Église que les apôtres. Ça, c'est fondamentalement impossible. Et donc, la notion de tradition est extrêmement forte. La tradition, elle ne distingue pas entre l'Écriture et les pères, mais la tradition, c'est l'Écriture au sein de l'Église sur l'autel, telle que lue par les pères. Donc ça, c'est très important de bien comprendre que ce concept de tradition ne correspond pas forcément à ce qu'on peut entendre en Occident par tradition. En même temps, la tradition, elle n'existe que parce qu'elle est créatrice, parce que le vrai sens de tradition, c'est transmission. Donc la tradition, d'un côté, elle est invariable, parce que c'est le dépôt de la foi. Et d'un autre côté, dans son expression, elle est sans cesse renouvelée par ce phénomène auquel d'ailleurs l'orthodoxie est très très attachée, qui s'appelle le baptême des cultures, n'est-ce pas ? Et donc chaque époque présente des défis nouveaux pour l'expression de la foi. La foi reste la même, l'expression, elle découle de l'accumulation de l'expérience du langage humain par l'Église, puisque on parle de mystères ineffables qui sont retranscrits dans un langage limité. Et en fait, la tradition est créatrice en ce qu'elle est toujours égale à ce qui a été impulsé par l'esprit de la Pentecôte. Donc c'est ce phénomène dynamique. Qu'est-ce qui va se passer dans cette école de Paris ? Eh bien, cette école de Paris, elle va aller à la rencontre, en fait, d'abord des autres confessions chrétiennes, puis des autres religions. Elle ne va avoir pas peur de l'altérité de l'autre. Elle va aller à la rencontre. Et en allant à la rencontre, elle va aussi rencontrer l'Occident, la science. Elle va rencontrer la France, la République, la laïcité. Et elle va démontrer, cette école de Paris, que l'expérience de l'orthodoxie est tout à fait possible dans tous ces cadres, que l'expérience de l'orthodoxie se nourrit de toutes ces rencontres, et en même temps, très important, que l'orthodoxie peut apporter quelque chose. Et ce sera d'autant plus vrai qu'en fait, cette école de Paris, dans les années 1930, ses animateurs vont rencontrer les animateurs du même renouveau liturgique, pastoral, patristique, exégétique, qui a lieu au même moment dans l'Église catholique. Les pères Danielou, Congar, de Lubac, la collection Sources chrétiennes qui poindra après la Deuxième Guerre mondiale. Et ce sont ces théologiens catholiques qui vont eux aussi animer Vatican II avec le même esprit. C'est pourquoi un orthodoxe, à part certains points d'ecclésiologie sur la papauté et autres, peut tout à fait lire les textes de Vatican II en se sentant dans cette grande théologie orthodoxe, c'est-à-dire la théologie de l'Église indivise.
Alors je rappelle que nous recevons aujourd'hui Jean-François Colosimo au sujet de l'école de Paris. Alors Jean-François, vous veniez d'évoquer cette tradition ressourcée, cette incarnation historique de la tradition orthodoxe sur cette terre occidentale, entre autres qu'est la France. Est-ce que vous pourriez nous présenter des figures emblématiques de cette école de Paris qui a précisément participé à cet ensemencement de cette terre ?
Parmi les grandes figures de l'école de Paris, il y a des gens comme Vladimir Lossky, qui a été l'initiateur des études sur Maître Eckhart en France. Ça, c'est aussi une attention portée à la tradition de l'autre, parce que Maître Eckhart, c'est le contemporain de Thomas d'Aquin, c'est un grand auteur de la tradition latine. Il y a Leonid Ousmanski, qui a permis la renaissance de l'icône. Et vous voyez bien qu'aujourd'hui, l'icône est devenue un bien commun à tous les chrétiens, et d'ailleurs, par-delà, à tous ceux qui aiment, je dirais, la beauté. Il y a eu ces grands théologiens patristiques, Florovski, Meyendorff, qui ont en fait permis la redécouverte des pères de l'Église et de découvrir une pensée existentielle de la foi par-delà ce qui pouvait être devenu au XIXe siècle des formules un peu mathématiques, un peu trop rationnelles. Et puis, surtout, cette école de Paris, elle a vécu dans l'histoire et elle peut s'honorer, ce sont évidemment nos prédécesseurs, c'est pas nous, elle peut s'honorer du fait que elle a participé de manière solidaire à la grande tragédie des Juifs de France pendant la guerre. Beaucoup d'entre eux émigrés étaient russes, ces Juifs, et ils ont été secourus au péril de leur vie par des membres de l'école de Paris. Donc prendre là où on est en compte, s'incarner là où on est, reconnaître aussi la sainteté, n'est-ce pas, et toutes les figures de sainteté qui ont pu exister dans cette terre, la Gaule, puis la France. Tout cela a été opéré dans une véritable, je dirais, épousaille des cultures.
On peut dire que ces exilés qui finalement se sont retrouvés dans la situation des Juifs à Babylone, qu'ont été les Russes en arrivant sur cette terre, comme vous dites, se sont fait accepter, se sont donc ressourcés, ont ressourcé la foi orthodoxe. Est-ce que il n'y a pas une nécessité d'exil, et comme le disait Schmemann, cette réalité du chrétien d'être un exilé perpétuel, pour justement découvrir, redécouvrir ce qui constitue les fondements et le socle de notre foi?
Nous sommes tous en voyage, nous sommes tous des pèlerins, n'est-ce pas, vers le ciel. Donc tout ce qui est la part de notre vie concrète, historique, notre identité, tout cela compte. Parce que c'est comme le corps, n'est-ce pas, et c'est le corps qui est appelé à la résurrection. Et donc c'est le corps aussi qui reçoit les sacrements, ça c'est le christianisme. Et dans le même temps, oui, il faut apprendre à être en quelque sorte en exil. Il y a deux sens au terme orthodoxie. On peut voir l'orthodoxie, effectivement, comme ces églises grecques, slaves, syriennes, libanaises, bulgares, serbes, etc. Et c'est vrai. Et c'est quelque chose de très important, parce que ces gens-là ont gardé la foi et l'ont transmise. Et puis, en même temps, l'autre sens orthodoxie, c'est celui-là qui compte, c'est le sens, en fait, de la foi de l'Église du premier millénaire, lorsque l'Église était indivise, lorsqu'il n'y avait pas un Orient et un Occident qui s'opposaient, mais lorsqu'il y avait une véritable symphonie. Donc l'orthodoxie, elle compte en tant qu'elle est le véhicule, effectivement, de cette foi qui, par des apôtres, passe par les docteurs, les saints, les martyrs, et qui nous arrive. L'orthodoxie, elle est valable lorsqu'on comprend qu'il faut la partager avec nos autres frères et sœurs. Et c'est ça la redécouverte et l'important dans l'école de Paris.
Merci beaucoup Jean-François.
C'était Sur les sentiers de l'orthodoxie avec Jean-François Colosimo sur l'école de Paris.